Alexandre Arcadie, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, beaucoup de nos compatriotes qui sont en France comme vous nous disent que c'est difficile d'être loin avec ce qui se passe en Israël. Est-ce que c'est ce que vous ressentez, Alexandre?
Bizarrement, c'est à la fois loin et très très proche. Depuis samedi dernier, je suis presque figé sur les chaînes d'info, sur les coups de téléphone avec mes amis d'enfance restés en Israël, sur certains membres de ma famille. Et je suis, comment dire, en connexion permanente, sans avoir évidemment le danger que connaissent les Israéliens face à cette, face aux attaques de toutes parts, dans tout le pays. Donc, à la fois près et loin, près par le cœur, loin par la situation, évidemment.
Oui. Alors, on le sait, vous étiez un militant sioniste depuis votre jeunesse dans la Shomer HaTzair. Est-ce que aujourd'hui, cet état d'esprit des kibboutz, c'est le plus important, c'est ce qui a permis aux gens de se sauver, peut-être dans les quelques miraculeux qui ont réussi à se sauver?
Je ne sais pas, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que cette attaque d'une barbarie incommensurable est un choc émotionnel à la fois pour le peuple d'Israël, pour le peuple juif dans le monde entier, pour l'humanité entière. Ce n'est pas seulement une affaire de sionisme ou de judaïsme, c'est une affaire de civilisation. Les terroristes du Hamas, ces barbares sanguinaires, ont attaqué Israël, non pas parce que c'était seulement Israël, mais parce que c'est aussi le pays de la démocratie, le pays des Lumières. Et beaucoup de gens en Europe ne comprennent pas fondamentalement qu'il y a un lien direct entre cette horrible attaque et notre civilisation. C'est notre civilisation, c'est notre progrès, c'est notre démocratie qui a été attaquée. C'est la raison pour laquelle vraiment le silence de certains m'a plus que troublé. J'ai été vraiment terriblement, terriblement, comment dire, outré par des silences qui pourraient paraître comme des approbations. Et c'est pour la raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup parlé dans les médias, parce que je voulais laisser la place à ceux qui ne s'étaient pas exprimés. Moi, on connaît mon attachement. On connaît mon attachement à Israël. On connaît mon attachement au sionisme. Ma voix est une voix parmi d'autres de ceux qui sont en préoccupation directe avec l'État d'Israël. Mais aujourd'hui, il faut reprendre la parole. Il faut reprendre le devant de ce combat et être présent pour non seulement pour dénoncer, mais pour dire à nos compatriotes européens, d'abord de la communauté juive, restons debout, montrons l'exemple, ne baissons pas la tête, n'ayons pas peur, ils ne gagneront pas. Et à tous les autres de dire que ce n'est pas une affaire de sionisme ou d'antisémitisme. C'est une affaire de civilisation. Si vous ne vous mettez pas debout avec nous, à côté de nous, ensemble, on sera perdu.
Oui. Vous dites n'ayons pas peur, Alexandre Arcadie, c'est parce que vous craignez à la suite de cette guerre en Israël que le conflit ne s'importe en France et qu'il y ait comme on l'a déjà vu, des incidents antisémites dans ce pays.
Malheureusement, il y en a déjà. Heureusement que le gouvernement a pris les mesures. Malheureusement, la mort de cet enseignant, il y a quelques jours apporte cet exemple flagrant de ces militants qui prônent l'obscurantisme, qui combattent les Lumières. Donc, il y a peut-être une prise de conscience aussi qui se fait par ce biais-là. Mais c'est vrai que la communauté dans son ensemble, notre communauté, a des craintes et je le comprends. ceux qui ont des enfants à l'école, ceux qui habitent des quartiers difficiles, bah oui, ils ont des craintes, mais il faut pas. Alors c'est facile de dire il faut pas. Il faut être ensemble, s'unir et dire non, non, c'est pas possible.
Vous parliez de reprendre la parole aujourd'hui. Est-ce que la voix des artistes comme vous, Alexandre Arcadie, peut-être parce qu'elle est proche des gens, elle donne un autre son de cloche que les journalistes ou que les politiques?
Moi, je suis sûr que les chanteurs, les footballeurs, mon ami Franck Tapiro l'a très bien dit sur des chaînes de télévision, qui se taisent, qui ne prennent pas parti au prétexte de c'est pas bon pour notre notoriété. Mais qu'est-ce qui n'est pas bon pour la notoriété? Quand on prend connaissance de massacres comme il y a eu la semaine dernière en Israël, il n'y a pas de précaution à prendre. Il faut dénoncer cette barbarie. Il faut le faire pour que ça serve d'exemple. Pourquoi ils se taisent? Pourquoi ces mouvements féministes qui effectivement se coupent une mèche de cheveux pour soutenir les femmes iraniennes, que je soutiens personnellement aussi, hein?
Bien
On
sûr.
coupe la mèche de cheveux pas devant, hein, derrière, pour que ça se voit pas trop. Quel est ce silence des mouvements féministes face à cette barbarie infligée aux femmes qu'on a traînées par les cheveux, qu'on a violées, ces enfants qu'on a massacrés? Quel est ce silence? Pourquoi? Parce que ça concerne Israël? Parce que ça concerne les Juifs? Alors là, ça s'appelle du déni ou alors de l'antisémitisme.
Je vais vous poser une question pas très politiquement correcte, Alexandre Arcadie, mais si le monde n'a rien fait pendant la Shoah et que 6 millions ont été assassinés, pourquoi aujourd'hui pour 1300, 1400, 3000 ou même le double, il y aurait plus de réactions?
Il y a une grande différence, c'est que au niveau de l'information, on n'est pas au même niveau. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre prétexte parce que les nazis cachaient leur assassinat, cachaient la solution finale. On se souvient, on a même construit des camps de concentration presque cinématographiques pour que la Croix-Rouge puisse les visiter en disant voilà comment on traite les juifs du monde. Donc il y avait cette volonté de ne pas montrer, d'agir sans montrer avec une férocité absolue. Aujourd'hui, on est dans le contraire total, c'est-à-dire que non seulement ces barbares ont déferlé sur le sud d'Israël pour attaquer des kibboutzim, des jeunes qui venaient là à la frontière pour une manifestation. On prenait la paix, donc c'était vraiment des gens de gauche qu'ils ont attaqué, des gens qui n'étaient pas d'accord avec le gouvernement de Netanyahou, qui était sûrement dans les rues de Tel Aviv ou des environs quand il y a eu les grandes manifestations. On les a attaqués eux, on les a massacrés, et non seulement ils l'ont fait, mais ils l'ont montré immédiatement. Ils l'ont filmé. Ils ont pris les téléphones des victimes pour envoyer immédiatement à leur père, à leur mère, à leur sœur, ce qu'ils étaient en train de faire. Donc il y a une volonté de montrer. C'est
Bien
là la
sûr.
grande différence. C'est qu'aujourd'hui, on sait. Quand les Américains et les Anglais sont rentrés en guerre et qu'ils ont commencé à bombarder, évidemment, Berlin et toutes ces villes allemandes, c'était pour libérer l'Europe, comme les Russes, l'Europe du nazisme, et libérer les camps de concentration. Parce qu'à un moment donné, ça s'est su. Mais combien de temps? Il a fallu combien d'années? Là, on n'a pas besoin d'années, on a besoin de quelques secondes pour le savoir. Donc, on réagit parce qu'on a ces quelques secondes-là.
Ça fait même partie de leur stratégie, effectivement, de montrer tout ça en direct. Vous qui avez déjà vécu plusieurs autres guerres d'Israël, Alexandre Arcadie, est-ce que vous sentez un peu la même ambiance qu'en 67, par exemple, ou c'est uniquement le cas dans la solidarité peut-être entre Israël et les communautés juives du monde entier?
Non, en 67, effectivement, la solidarité a été internationale. On avait peur pour un petit État qui était entouré de 100 millions, pardon, de 100 millions d'ennemis déclarés. Et puis les choses ont changé. Le discours du général de Gaulle, on s'en souvient, etc. Et d'un petit pays comment dire, fragile. Cette guerre éclair a montré que c'est un pays qui savait se défendre pour sa survie. Donc là, les choses se sont modifiées. Aujourd'hui, je constate malgré tout que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, enfin les grandes puissances, l'Inde, prennent parti pour la défense d'Israël sans hésitation. Voilà. Je crois que les choses ne sont plus exactement les mêmes, mais ce qui se passe, c'est que alors que l'État d'Israël a été attaqué dans sa chair de manière absolument abjecte, de victimes, on n'a pas attendu quelques jours pour en faire des ennemis potentiels, hein, sur ce qui risque de se passer dans quelques jours. C'est extraordinaire ce revirement comme ça de situation alors que rien ne se passe et qu'Israël ne fait que se défendre. Que se défendre.
Bien sûr, et c'est vrai qu'on a très peur que dès que les troupes seront rentrées dans Gaza, on montre beaucoup d'images des civils de Gaza pour lesquels on a de la peine aussi, évidemment, mais qui sont pris en otage par le Hamas. Et on nous dira, vous voyez, c'est la même cruauté des deux côtés.
Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que depuis 20 ans, les Palestiniens de Gaza, d'abord, ont voté pour que le Hamas s'installe à la manœuvre. Et ils en ont souffert pendant 20 ans. Ils en souffrent encore aujourd'hui. Parce qu'on voit comment on les traite. On sait comment l'administration du Hamas traite ses habitants, comme une dictature, absolue.
À fait.
En laissant le peuple dans une misère incroyable, alors que les dirigeants se prélassent dans les palaces du Qatar ou je ne sais, dans d'autres pays. Donc il y a là quelque chose d'absolument abject. Et je fais même cette nuit, j'ai fait même un rêve en me disant, mais comment ont réagi les Français quand les Américains sont rentrés dans Paris pour libérer la France du joug des nazis, avec des fleurs, avec des embrassades, avec une aide. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je comprends pas cette population qui souffre d'un État incroyablement hostile à leur égard et qui continue à jouer un jeu qui est incompréhensible pour leur bien-être à eux. On parle de ghetto à ciel ouvert, mais quand on connaît Gaza, on sait que ça aurait pu être autre chose s'il y avait eu une autre politique. Et il faut rappeler quand même qu'il n'y a pas un mètre carré occupé par Israël à Gaza, pas un mètre carré. Donc on ne peut pas parler là d'implantation ou de choses de cette sorte. Ils avaient le pouvoir. Il y avait tellement d'argent qui a été versé dans cette localité, qui a servi à quoi? À armer le Hamas pour pouvoir renvoyer des projectiles sur Israël et faire cette guerre horrible qu'on a vue la semaine dernière. C'est tout.
Et prendre en otage sa population en les empêchant de se sauver quand Israël leur a demandé de les envoyer plus vers le sud avant ces frappes.
Il
Merci
faudra du
beaucoup.
temps, il faudra du temps à l'histoire pour raconter tout ça avec sérénité.
Merci beaucoup, Alexandre Arcadie, d'avoir été avec nous pour Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes réalisateur. Votre dernier film, Le Petit Blond de la Casbah, sort bientôt et j'espère que tout ça va se calmer, que cette guerre va se finir vite et que vous pourrez revenir nous en parler et qu'on pourra changer de sujet et avoir le sourire.
Avec plaisir, d'autant plus, vous voyez, par exemple, hier, il y a eu une projection du film dans la banlieue parisienne à Neuilly. Je me suis posé la question, hein, sur s'il fallait maintenir cette projection, pas avec les organisateurs, et on l'a maintenue. Et ça a fait un bien fou de se retrouver, de voir ce film qui parle au fond de l'histoire de notre peuple sur une autre contrée. Et c'est en fin de compte l'histoire du peuple juif que je raconte dans ce film-là.
Très émouvant, je l'ai vu en Israël. Merci beaucoup Alexandre Arcadie et à bientôt.
À bientôt.